Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère aujourd'hui ?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour,
bonjour
à tous.
Pendant cette heure, ce sont vos expériences de vie que nous partageons, celles qui vous ont forgé, qui vous ont marqué, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. En France, aujourd'hui, près de 6 millions de personnes sont considérées comme obèses. Ces femmes et ces hommes ont un indice de masse corporelle compris entre 30 et 40, le surpoids et lui compris entre 25 et 30. Être obèse, c'est s'entendre dire de nombreux clichés comme « si tu es gros, c'est que tu manges trop haut », « tu es obèse parce que tu te laisses aller ». Pourtant, depuis 1997, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'obésité comme une véritable maladie, non pas liée simplement à son mode de vie, mais à de nombreux facteurs propres à chacun. Une maladie donc qui peut avoir des conséquences graves quand on en souffre. Alors comment lutter contre l'obésité ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le 39 21 50 centimes la minute pour venir nous parler à l'antenne d'Europe 1, pour nous écrire sur la page Facebook de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 ou via Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Tina sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Tina.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors moi j'ai 48 ans et je vous appelle de région parisienne.
D'accord. Alors Tina, vous dites qu'aussi loin que vous vous souvenez, vous avez toujours cru être en surpoids. Pourquoi cru ? Que voulez-vous dire par là ?
En fait, quand tu es une jeune femme méditerranéenne et puis que tu arrives au moment de la puberté et que tu es réglée un peu précocement par rapport à tes copines, très rapidement ta morphologie change. Mmh. Et puis l'image que te renvoie la société, c'est l'image de quelqu'un de différent et donc littéralement de quelqu'un de gros pour le coup, puisque tu n'es plus une enfant, en fait tu es juste devenue une femme et tu te crois grosse. Et mmh. C'est là que commencent les problèmes en fait.
Parce que votre corps a évolué comment en fait ?
Bah en fait, quand tu es gamine et que tu as 11 ans et que tu es réglée, ton bassin, tu es méditerranéenne, ton bassin s'élargit, ouais. Tu prends des fesses, tu prends des formes, tu deviens femme. Mais simplement, quand toutes tes petites copines sont sans doute des normes de minceur encore enfantine, ouais. Tu te sens différente.
Alors, je suppose,
l'image que te renvoie la société, tes petits camarades de classe... N'est pas flatteuse, il y a une incompréhension par rapport à ça. Ouais.
Et je suppose que dans votre tête, vous aviez l'impression de ne pas être comme les autres, de ne pas être normal.
C'est ça.
Que vous renvoyez la société donc, comme image ? Parce que vous parlez des petites copines, ça a commencé tôt les réflexions sur votre physique ?
Oui, ça a commencé tôt. Alors après, moi j'avais la chance, je ne sais pas, mais par rapport à certaines copines, d'être un peu garçon manqué et rentre dedans.
Oui.
Et affirmer, donc tu prends cette posture-là de personne forte et tu assumes les réflexions et tu te défends. Mm-hmm. Mais ça te donne cette posture-là et cette construction-là en fait pour après.
Oui.
Et pour presque toujours. Mm-hmm. Alors ça te sauve pendant un temps, donc, mais tu deviens là pour le coup littéralement une personne forte. Puisque pour le coup tes kilos... Parce que tout ça fait grossir, en fait. Hein. J'ai récemment, et un peu trop tard d'ailleurs, découvert les travaux d'une une jeune psychologue, une jeune chercheuse en psychologie sociale,
ouais.
qui a fait une étude qui dit que le fait pour les jeunes femmes de se croire en surpoids,
ouais.
en fait, qu'elles le soient ou qu'elles ne le soient pas d'ailleurs, peut entraîner, hein, si le contexte malheureusement est favorable, des comportements qui vont les amener à grossir.
Mmh.
Donc moi, je suis super sensible, et depuis que j'ai compris ça, parce que moi j'ai 48 ans maintenant, hein, mais pour toutes ces nouvelles générations et ces jeunes femmes, je suis super sensible à ce sujet, à cette problématique-là, de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage, parce qu'une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage et que ça a commencé à grossir, et c'est problématique. Parce qu'en fait, tout fait grossir quand tu as commencé à grossir. Ouais.
Mmh. Ça a visiblement forgé votre caractère, en tout cas, c'est ce que vous me dites. Vous dites avoir été victime de grossophobie, parfois ouvertement, au travail par exemple. Vous dites avoir plus de mal à être promu. C'est lié à votre obésité, selon vous ?
En fait, quand tu as des résultats, quand tu travailles dans des métiers commerciaux de management et que tu as des objectifs et des résultats égaux ou supérieurs à tes collègues, et que tu as des niveaux de prime ou de promotion qui ne sont pas égales, soit tu es une femme, ça joue aussi, mais je pense sincèrement que mon aspect physique mon poids, mon obésité, m'ont desservi, bien sûr, ont été des vrais problèmes, surtout quand tu représentes l'image de l'entreprise. où tu dois représenter l'image de l'entreprise, d'accord ? Une entreprise doit être représentée par aujourd'hui dans la société par des personnes qui ont une certaine image idéale, qui valorise l'entreprise. Une personne, l'image de la personne obèse ne valorise pas l'entreprise, ne paraît pas comme dynamique, etc.
Et donc, ça a clairement stoppé votre promotion de souffrir d'obésité.
Ça l'a beaucoup ralenti. Mm-hmm. Ça l'a beaucoup ralenti. Et puis, en fait, le fait d'être frustré et puis de ne pas être bien considéré, pour les personnes obèses, ça ne peut que les faire grossir aussi. Hein. C'est un cercle infernal. Je suis repartie faire des études et j'ai repris des diplômes pour être plus diplômée que mes collègues. Mais ça n'a pas suffi,
oui.
D'accord ? Jusqu'à arriver à un point où professionnellement, c'est devenu très compliqué, puis on finit en burn-out quand même.
Oui,
hein.
Oui, oui. Ouais. Vous avez rencontré le père de votre enfant qui, lui, avait subi une chirurgie de l'obésité. Laquelle ? Et ensuite, dites-moi si cela vous a aidé, que vous échangez
en fait,
tous les deux.
Une re-rencontre un peu particulière, parce que c'est un garçon que je connaissais 20 ans auparavant,
oui.
Et lui avait 50 kilos de plus.
Mmh.
Et quand on s'est re-rencontrés, on ne s'est pas reconnus tout de suite parce qu'en fait, moi, j'avais pris les 50 kilos.
Oui.
Lui, il les avait perdus. Et donc, on s'est revus et on a refait connaissance. Et en fait, il s'avère qu'il avait fait un bypass.
Oui.
C'est une chirurgie bariatrique où on modifie l'appareil digestif pour faire maigrir. Hein.
Mmh.
Et lui, il avait perdu plus de 50 kilos. Et donc, oui, ça m'a questionné. Ça m'a questionné de savoir. Et c'est de là qu'a commencé mon sujet bariatrique, mon sujet chirurgie d'obésité. Parce qu'avant, je ne m'étais pas tellement posé la question. Moi, en taille 48, je faisais des rando-rollers. J'étais une grosse dynamique en bonne santé. Hein.
Mmh, mmh.
Donc, la bariatrique, ce n'était pas trop mon sujet. Et puis, qu'il ait fait la chirurgie, moi, j'avais encore repris avec mon burn-out encore 20 kilos de plus. Ça commence à bien faire.
Oui.
Et j'ai vu qu'il n'était pas suivi, en fait. Que ces populations-là doivent être suivies une à deux fois par an, faire des examens. Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas vu son chirurgien depuis 2 ans et demi. Il n'avait pas fait de bilan sanguin. Ça provoque de graves carences vitaminiques. Enfin, j'ai pris conscience de tout ça.
Oui.
J'ai rencontré son chirurgien. J'ai moi-même discuté de mon cas et commencé à réfléchir. Et puis, en fait, ça a commencé un peu comme une enquête.
Oui.
Parce que je suis curieuse, parce que le sujet m'intéressait directement puis indirectement, parce qu'aussi je travaille en relation avec le monde de la santé depuis une vingtaine d'années.
Oui.
Et donc j'ai été curieuse de tout ça, donc j'ai été explorer, j'ai été voir ce qui se passait, comprendre, faire des réunions de patients, de la littérature scientifique, c'est comme ça que j'ai découvert les travaux de Lorraine Houtin, entre autres.
Mmh.
Et pour comprendre déjà pour moi et pour mon conjoint, et puis pour tous les autres aussi, quelque part.
Oui.
Qu'est-ce qui se passait? Comment c'était pris en charge? J'ai découvert qu'il y avait 500 000, les 10 dernières années, il y avait eu 500 000 chirurgies bariatriques.
Mmh.
Donc comment voulez-vous qu'on suive avec le système de santé français qu'on a aujourd'hui, suivre 500 000 patients une fois par an à deux fois par an avec plein de problématiques et de pathologies très très différentes, tandis qu'un médecin généraliste aujourd'hui a du mal à faire des consultes de 10 minutes. Quoi.
Mmh. Tina, vous restez en ligne avec nous. On va parler de quels facteurs auxquels sont liés votre obésité, et puis on va parler aussi de la mise au monde d'une petite fille, hein, à savoir s'il y avait des contre-indications sur la naissance de cette petite. Mais pour l'instant, vous restez en ligne et on continue à parler de votre histoire dans quelques instants.
Europe 1. Vous souffrez d'obésité, vous avez décidé de lutter contre, ou alors vous avez décidé de vous accepter tel que vous êtes. Vous témoignez sur Europe 1 au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire et nous rejoindre sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Entre 15h et 16h, vous écoutez Olivier Delacroix sur Europe 1. Nous parlons de la maladie qu'est l'obésité. Vous en souffrez, vous souffrez également du regard des autres. Vous nous racontez votre histoire au 3921.
Et nous sommes toujours en ligne avec Tina, qui nous parlait de son obésité et puis de sa vie. Hein. Et justement, nous parlions des facteurs qui étaient liés à cette obésité, Tina. Quels sont-ils ?
Alors en fait, moi je vais parler de ce qui me concerne moi, après
oui.
On est toutes très différentes, c'est multifactoriel en fait.
Mm-hmm.
Le fait de très tôt adopter des comportements pour vouloir maigrir alors que ce n'est pas nécessaire, c'est obésogène en fait, hein. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS.
Obésogène, qui veut dire quoi exactement?
Enfin, la haute autorité de santé, obésogène. En fait, les régimes restrictifs, c'est-à-dire plus tu vas faire des régimes,
oui.
Plus tu vas contraindre ton corps et ton cerveau,
mm-hmm.
et plus il va se mettre en sous-régime, et plus mm-hmm. il va stocker.
D'accord.
Et plus tu vas regrossir. Parce
d'accord.
qu'en fait, notre organisme est fait pour nous faire survivre, et donc mm-hmm. quand tu le mets en privation, il stocke. Donc une des raisons de l'obésité, c'est les régimes, déjà. Donc quand tu commences par ça à l'adolescence, fatalement, ça t'emmène sur cette pente-là. Mm-hmm. Et puis après, il y a une gestion des émotions, un stress que te provoque également l'obésité, donc c'est un cercle infernal, et qui t'emmène vers toujours plus de poids, puisque ton poids t'apporte des problématiques relationnelles dans l'estime de toi, sur plein de sujets en fait, qui t'emmènent vers toujours plus de prise de poids. Mmh. C'est après, il y a, moi, ce n'était pas mon cas, du moins dans les premiers temps, ça l'est devenu.
Oui.
Peut arriver rapidement des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète, tu as des problèmes de mobilité, tu as mal aux articulations, tu ne peux pas faire d'activité physique parce que tu as un tel surpoids que tes articulations ne le permettent pas. Donc, de préconiser de l'activité physique sans autre précaution auprès des personnes en obésité, c'est une hérésie, d'accord ? Parce qu'elles ne peuvent pas la pratiquer. Et puis, chemin faisant, des problèmes comme le burn-out professionnel rajoutent une vingtaine de kilos facilement en une année, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Alors, Tina, vous avez mis au monde une petite fille. Pourtant, obésité et grossesse sont contre-indiquées. Que vous a dit le corps médical par rapport à ce projet ?
Le corps médical m'a très tôt dit, que j'étais même avant que je sois en obésité, que j'étais en surpoids, et pour faire un enfant, il fallait maigrir. D'accord ?
Ouais,
Donc, j'étais sur ce truc-là. Avant de rencontrer mon conjoint actuel, j'avais une autre vie.
Ouais.
Et dans cette vie-là, le corps médical ne m'avait pas vraiment aidée et poussée à avoir une grossesse, puisqu'il fallait d'abord que je maigrisse et que de toute façon, personne ne m'aidait à maigrir. Donc, c'était compliqué.
Mm-hmm.
Donc, j'avais abandonné l'idée. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est quand même violent d'avoir envie d'un enfant que le corps médical te dise que t'es trop grosse pour avoir un enfant. C'est un truc qui te fait grossir encore plus.
Vous avez eu peur que votre enfant soit obèse aussi ?
Si, justement, c'est pour ça que je me suis beaucoup, beaucoup documentée. Vraiment, je me suis beaucoup documentée. J'ai beaucoup étudié la question, je me suis intéressée aux choses médicales. Et pour comprendre comment ça marchait, si c'était héréditaire, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, que je ne fasse pas, etc. Et contre toute attente, très tardivement, à 46 ans, avec un petit coup de main quand même en fécondation du corps médical, j'ai eu une petite fille, j'ai eu une grossesse dynamique, pendant laquelle j'ai perdu du poids, pendant la grossesse, bizarrement, où j'ai été bien sûr très surveillée, du fait de l'âge et du surpoids. Et contre toute attente et contre même la volonté du corps médical, j'ai choisi. Et ça, il faut se battre. Quand on est en obésité, il faut se battre pour tout, Olivier, vraiment. Je me suis battue pour que ma fille naisse par voie basse et non pas par césarienne.
Oui.
Parce que c'était beaucoup plus confortable pour tout le monde qu'elle naisse par césarienne. Contrairement à ce que m'avait dit des échographes, des radiologues que j'avais vu un peu avant mon accouchement, mon enfant n'était pas obèse, mon fœtus, elle n'était pas, comme disent dans le milieu médical, macrosome, c'était énorme.
Vous avez mis en tout cas une jolie petite fille au monde. On manque de temps, malheureusement, donc on va parler, parce que c'est important, de votre association. Vous avez créé l'association Donuts. Quel est son but exactement, Tina ?
Alors, je n'ai pas créé directement, mais je suis bénévole et chef de projet et très, très active. En fait, l'association Donuts, ça veut dire développement d'outils numériques utiles au travail sur le surpoids. En fait, avec tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai relevé d'autres sur ces 4 dernières années, j'ai cherché des gens pour nous aider. Donc, j'ai été chercher une autre psychologue sociale qui s'appelle Manuela Kenapena, qui nous aide et qui fait des études sur la relation des femmes, et parce qu'on s'occupe des femmes essentiellement dans ce premier projet, des femmes et du poids. On a une pré-étude actuellement en lien sur notre page Facebook de notre SASSO pour en fait étudier quels sont les facteurs vraiment qui emmènent les femmes vers l'obésité et comment, sans aller à la chirurgie, sans passer par des histoires de diète ou de sport, en les accompagnant dans leur comportement et psychologiquement, comment avec des outils numériques aujourd'hui on peut les aider à se prendre en charge et à changer leur comportement.
Redonnez-moi l'adresse sur laquelle ces femmes peuvent se trouver.
On a pour l'instant une page Facebook, c'est un nouveau projet et qu'on manque de moyens, mais c'est une page Facebook qui s'appelle Donuts, c'est un clin d'œil, Donuts-asso sur Facebook, et on a une première pré-étude où les femmes peuvent répondre, quelle que soit leur morphologie, parce qu'on veut des femmes normopondérées pour comprendre aussi en relation avec les autres, quelle que soit leur morphologie, elles répondent à une pré-étude pour qu'on comprenne en quoi leur poids et les problématiques de poids influent sur leur vie. En fait.
Alors Tina, vous êtes très active aujourd'hui, on le voit. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre tête votre corps ?
Moi, j'ai fait une chirurgie bariatrique en septembre dernier.
Oui.
J'étais obligée de passer par là parce que ma petite se levait plus vite que moi, courait plus vite que moi, donc je connaissais déjà tous les protocoles et donc j'ai été voir le chirurgien que j'ai estimé le plus compétent à me suivre et j'ai fait la chirurgie, j'ai perdu 25 kilos de septembre à aujourd'hui, ce qui est énorme. Donc c'est génial parce que je peux courir, monter les escaliers, j'ai plus d'asthme, donc il y a plein de choses bénéfiques, mais je mange comme un bébé de 1 an. Mes repas, c'est 2 cuillères à soupe et je dois faire attention que les 2 cuillères à soupe soient super équilibrées. Si je bois un verre d'eau, je ne peux plus manger. Vous voyez,
ouais,
donc
ouais.
La vie des obèses opérés, ce n'est pas super cool, comme on peut le croire, ce n'est pas une opération magique et je vais avoir une surveillance médicale à vie.
Mmh. Merci Tina pour votre appel et pour votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons le docteur Hélène Lelandais. Elle travaille dans un centre spécialisé obésité, un CSO pardon, en Haute-Normandie.
Et il nous témoigne sur Facebook. C'est une lutte sans fin tous les jours. Perte sur 3 ans d'un peu plus de 60 kilos, rééquilibrage et mise au sport. Je me bats chaque jour pour ne pas tomber à nouveau dans mes vices. Je suis toujours encore suivie régulièrement par des professionnels pour m'aider.
Europe 1.
Vous êtes en surpoids ou atteint d'obésité. Comment vivez-vous au quotidien? Quels sont vos combats? Vous nous racontez votre histoire au 3921. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Vous êtes atteint d'obésité, l'un de vos proches. Quels sont les moyens de lutte contre le surpoids? Écrivez-nous également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Hélène Lelandais, docteur dans un centre spécialité obésité en Haute-Normandie. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité.
Mais je vous en prie. Ma première question porte sur les critères médicaux. Quels sont-ils pour une personne qui est considérée comme obèse?
Alors, le critère d'obésité, il est essentiellement basé sur ce qu'on appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle.
Oui.
C'est le rapport entre le poids du patient et sa taille au carré.
Mmh.
On considère qu'un patient, donc c'est ce que vous rappeliez au début de l'émission, qu'un patient est en surpoids entre 25 et 30 IMC. Au-delà de 30 IMC, on considère qu'il s'agit d'une obésité, qu'on grade après en obésité de grade 1, entre 30 et 35 kg par mètre carré, grade 2 au-delà de 35 et grade 3 au-delà de 40.
Mmh. Pourquoi y a-t-il plus de femmes que d'hommes sujettes à l'obésité?
Alors, je pense qu'on en voit plus qu'on ne voit des hommes, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de femmes obèses.
Il y a eu
obèses,
des études par rapport à ça? Parce que, en fait, c'est vrai que lorsque j'ai vu cette question, je ne me suis jamais fait la réflexion, moi. Donc,
Je pense que l'obésité, elle concerne plus les femmes parce qu'effectivement, il y a une pression de la société sur le corps des femmes
physique,
et sur le poids
ouais.
des femmes.
Ouais, ouais.
Donc, je pense effectivement que la problématique est plus importante pour elles mmh. à cause de ça.
Mmh. À quoi est due généralement l'obésité? Quelles en sont les causes principales?
Alors, votre première auditrice a déjà donné
ouais.
pas mal d'explications
ouais, ouais.
assez pertinentes, notamment quand elle parle du pouvoir obésogène des régimes. Et effectivement, on voit que l'effet yo-yo, qui est bien connu avec les régimes restrictifs, conduit bien souvent les patients à l'obésité. Concrètement, plus on fait de régime, et plus on se restreint et plus on grossit.
Mmh.
Ça, c'est une première chose physiologique parce qu'effectivement, nous sommes des mammifères, on est fait pour résister à la famine et les mécanismes physiologiques de prise de poids sont beaucoup plus efficients que ceux qui nous permettent de perdre du poids.
Mmh.
Après, effectivement, quand on fait des régimes et qu'on se restreint, le risque, c'est également de développer des troubles du comportement alimentaire et notamment des troubles du comportement alimentaire de type compulsif, c'est-à-dire que, en présence d'émotions ou de stress, on va se servir de l'alimentation pour se réconforter.
Mmh.
Alors, l'alimentation a une vertu réconfortante pour tout le monde. Le problème, c'est quand on utilise cette vertu trop souvent et avec une alimentation prise en trop grande quantité. Et c'est là qu'on risque de prendre du poids.
Mmh. Vous évoquez ces régimes, et j'étais en train de me demander si cette société, basée beaucoup sur l'image, sur le physique, est-ce qu'elle a conduit pas mal de jeunes personnes qui ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans et qui sont obèses, à commencer très tôt des régimes, et donc que cela représente l'un des facteurs principaux de leur obésité?
Alors, est-ce que c'est un facteur principal? En tout cas, c'est un facteur déclenchant. Après,
ouais.
L'obésité, elle s'auto-entretient toute seule, elle n'a plus besoin de personne.
Mmh.
Mais concrètement, oui, je pense que cette pression sociale, et comme on disait tout à l'heure, notamment sur les femmes, est très importante. Moi, je me faisais encore la réflexion il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que maintenant, la mode, c'était pouvoir cacher sa taille avec une feuille A4. dans le sens de la longueur. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un tour de taille qui excède à peu près 2 fois 21 cm. Mmh. Ouais. Ce qui est absolument aberrant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas humain.
Ouais, ce qui n'est pas très malin, surtout, je pense. Mais bon, lors de notre émission...
C'est des choses qui se font, malheureusement. Ouais.
Lors de notre émission sur la grossophobie, diffusée le 28 août dernier, une auditrice très obèse, Patricia, nous racontait qu'elle avait dû aller chez le vétérinaire pour faire un IRM. Pourquoi les personnes obèses sont-elles si peu considérées par le milieu médical dans certaines régions, hein, je le précise. Les personnes obèses sont très souvent culpabilisées, tenues pour responsables de leur état. Pourquoi on retrouve tant de dureté dans le milieu médical vis-à-vis de ces personnes-là ?
Dans l'exemple que vous prenez, je ne pense pas qu'on l'ait envoyé à l'IRM pour la punir. Hein.
Bien sûr que non.
On manque de matériel, malheureusement. Mmh. C'est vrai que les cas d'extrême obésité sont rares. Et du coup, le matériel est rare également. Donc, ça, c'est une première chose. Après, vous avez raison de dire qu'au sein du corps médical, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas bien formées et pas suffisamment sensibilisées aux problèmes que pose l'obésité et d'abord aux problèmes que ça pose aux patients qui sont atteints d'obésité. Et dans ce sens, il faut absolument développer effectivement l'information à la population, notamment médicale. Mmh. C'est quelque chose qu'on fait, nous, par exemple, à Rouen. Ma collègue, le docteur Vanessa Follop, a d'ailleurs mis en place une formation qui s'adresse au personnel médical et paramédical pour les sensibiliser à l'obésité dans leur vie professionnelle, mais aussi pour prévenir la grossophobie un peu simple de la vie de tous les jours.
Mmh. Docteur Lelandais, vous restez en ligne avec nous, vous allez continuer à nous apporter vos éclairages. Je rappelle que vous êtes docteur dans un centre spécialisé obésité en Haute-Normandie. Dans quelques instants, nous accueillerons Wafa. Elle dénonce le manque de vêtements disponibles pour les personnes obèses.
Europe 1.
Pour votre santé, pour être mieux dans votre peau, vous êtes atteint d'obésité, vous avez décidé de lutter contre. On a envie de vous entendre sur Europe 1. Appelez-nous le 3921. C'est une maladie multifactorielle. L'obésité se traite au cas par cas. C'est votre histoire. Venez nous dire quelles difficultés vous rencontrez. Vous souffrez du regard des autres. Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Wafa. Bonjour Wafa, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Wafa ?
Écoutez, j'ai 42 ans et je vous appelle de Paris.
De Paris. À partir de quand avez-vous réalisé que vous étiez obèse ?
À partir de quand ? Écoutez, ça fait facilement une dizaine d'années. Donc, du coup, depuis que je suis montée de Bordeaux, puisque là-bas je suis bordelaise, et de faire le changement au niveau de mon environnement, de mon alimentation, les choses ne se sont pas forcément améliorées au niveau de mon alimentation. J'ai pris du poids, changement de situation, et c'est ce qui a fait effectivement que petit à petit, j'ai pris du poids, j'ai augmenté au niveau de ma taille, au niveau de mes vêtements, et là ça a été un changement radical par rapport à m'habiller, ma façon de m'habiller, ma façon d'être et aussi justement mon bien-être intérieur, on va dire.
À quoi à votre avis est due l'obésité ? Est-ce que c'est réellement le changement de région ou il y a d'autres facteurs majeurs qui sont dus à cette obésité ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Maintenant, là aujourd'hui, en parlant de moi, ça a été principalement par rapport à ma situation justement où j'ai changé d'environnement, de professionnel. Ça a été aussi justement mon alimentation où j'ai un petit peu mangé tout et n'importe quoi concrètement. J'ai arrêté le sport aussi. Donc voilà, ça a joué.
Pardonnez-moi de vous couper, mais le fait de passer d'une région comme Bordeaux où la vie, on le sait, en province, est plus facile. Tout est plus facile, hein. Il y a une qualité de vie à la vie parisienne. Est-ce que ça a été un facteur majeur, ça ?
Je pense que ça a été un facteur majeur puisque moi j'ai changé complètement d'environnement. Mm-hmm. L'aspect familial n'était plus là, donc du coup toute ma famille est sur la région bordelaise, donc il fallait que je fasse mes propres repères, il fallait que je fasse mon propre repas, je vais dire, puisque j'étais quand même au sein de ma famille. Mm-hmm. Et puis voilà, à partir de là il y a tout un changement, et puis on ne fait pas forcément attention justement au niveau de son alimentation, en particulier par rapport à moi. Mm-hmm. Je faisais du sport, j'ai aussi un petit peu arrêté par rapport au sport, donc ça fait boule de neige en quelque sorte.
Alors aujourd'hui vous faites une taille 52, est-ce que ça a été difficile de trouver des vêtements à votre taille ?
Mais totalement, effectivement, puisque je pouvais pas m'habiller forcément comme ce que je voulais. J'étais obligée de pouvoir peut-être m'acheter pour pouvoir m'acheter des choses et m'habiller correctement. Mm-hmm. Mais je n'étais pas forcément heureuse dans ce que j'avais, dans les habits que je mettais. Ça ne reflétait pas réellement ma personnalité, moi. Mm-hmm. Donc du coup, là aujourd'hui, malheureusement, je vais dire, je ne trouvais pas forcément ce qui m'intéressait. Quelque chose qui était sympa, joli. Aujourd'hui, on commence à ouvrir les yeux. Certains industriels commencent à ouvrir les yeux, mais ça a été très difficile. L'offre du marché n'est pas suffisante.
Bah, vestimentalement parlant, c'est vrai que pour les femmes et les hommes obèses, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à maintenant.
Ah non, non, c'est pas du tout suffisant. Aujourd'hui, malheureusement, vous savez, Paris, c'est la mode. Oui. Donc là, aujourd'hui, lorsqu'on rentre, on fait une taille 52 dans un magasin, on ne nous regarde pas forcément avec des beaux yeux. Oui. On va nous regarder, on va nous dévisager, on va regarder cette personne qui rentre en disant « Mais pourquoi elle rentre dans ce magasin ?» En quelque sorte, il n'y a rien du tout pour elle. Qu'elle fait chez nous, en quelque sorte. Oui, oui. Elle devrait faire peut-être un régime ou autre chose. Vaut mieux qu'elle aille voir ailleurs. Ou éventuellement, si je rentre dans un magasin, on va me dire « Écoutez, c'est pas ici, c'est pas devant, il faut que vous alliez là-bas au fond. » voilà, les vêtements ne sont pas forcément mis en avant, et puis forcément rentrer et voir une fille, on va dire, de grande corpulence, ça ne leur plaît pas forcément tous les jours.
Alors, face à cette attitude des vendeuses que vous rencontrez dans les magasins, et face aussi, on peut l'appeler comme ça, cette pénurie de vêtements pour les femmes et les hommes obèses, vous avez décidé de créer une ligne de vêtements pour femmes rondes. Racontez-moi ce projet.
Mais écoutez, effectivement, je suis partie d'un besoin. Donc, du coup, ne trouvant pas réellement, moi, ce que je cherchais, j'ai décidé de créer un vêtement, donc de pouvoir sortir un premier vêtement qui était adaptable selon la morphologie de la femme. Mm-hmm. Donc, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pris mon exemple. Je fais un effet yo-yo. Je grossis, je maigris, je perds du poids. Et puis, bon, après, voilà, en fonction, effectivement, de la santé, je vais peut-être prendre par moment, je vais peut-être perdre, justement, par d'autres moments. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, j'ai mon placard qui est rempli de vêtements, donc je pourrais peut-être ouvrir deux magasins pour pouvoir les revendre, mais c'est là où j'ai réfléchi, c'est là où je me suis dit éventuellement que je puisse perdre ou gagner, j'aimerais avoir un vêtement où je puisse être à l'aise dans mon vêtement, en fait, être adaptable, c'est que le vêtement s'adapte au corps, en fait, et pas l'inverse. Et c'est là où voilà, j'ai réfléchi à créer justement un prototype, à mettre en place cette ligne de vêtements qui s'appelle Sneaky Paris. Donc du coup, effectivement, je l'ai lancée et c'est ce qui m'a permis de pouvoir commencer à la proposer et s'appeler aujourd'hui, puisque la femme, comme je vous l'ai dit, elle peut perdre du poids, elle peut en gagner, elle sera toujours à l'aise dans son vêtement en fait. Alors... Et en même temps, je propose des fonds de robe interchangeables, ce qui fait que le vêtement, en fait, c'est du 2-en-1, du 3-en-1, donc il est complètement modulable en fait.
Alors comment vous faites ça? Vous faites ça sur Internet en fait? On peut échanger, comment ça se passe exactement?
Alors comment ça se passe? Effectivement, j'ai créé ma page Facebook où là, vous avez la page Sneaky Paris, donc du coup S-N-2-I-K-Y Paris. C'est l'inverse de Skinny. En quelque sorte.
D'accord.
Si vous voulez, skinny en anglais, c'est maigre, c'est collant. Là, aujourd'hui, mon vêtement, il n'est pas moulant, il est plutôt aérien.
D'accord.
Et donc, du coup, il ne colle pas à la peau. Donc, en quelque sorte, vous n'êtes pas skinny, mais vous êtes sneaky. Donc, c'est un petit peu justement le jeu de mots que j'ai voulu jouer. Vous pouvez le trouver aujourd'hui justement sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Le site internet est en cours de construction, il va être finalisé pour la prochaine collection printemps-été que je vais lancer justement pour mars 2019.
Ouais.
Et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et sur Paris et sur Bordeaux, puisque là dernièrement j'ai gagné un concours aussi justement sur Bordeaux et c'est ce qui va me permettre en fait de pouvoir travailler sur ces deux villes et revenir un petit peu aussi à mes sources.
Eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans cette entreprise Wafa et bravo pour cette initiative car il est vrai que lorsqu'on voit 6 millions de personnes qui sont concernées par ce problème de l'obésité, on peut aussi penser qu'il y a des parts de marché à prendre en termes de business. Donc bravo pour votre initiative. Dans quelques instants, nous accueillerons Karine. Elle a subi une opération alors qu'elle pesait 197 kilos.
Et Patricia témoigne sur Facebook, j'ai pris 50 kilos en 10 ans à cause de médicaments. Maintenant, je suis revenue, j'imagine, à son poids initial, mais bien sûr, c'est dur. Europe 1. Vous partagez ce que vit Wafa qu'on vient d'entendre. Vous nous racontez votre histoire au 39-21, l'obésité, comment lutter contre et comment combattre les discriminations subies par les personnes en surpoids. Vous pouvez aussi nous écrire et réagir sur Twitter, hashtag Europe 1. Comment lutter contre l'obésité? Comment lutter contre les clichés liés à l'obésité? On vous écoute au 39-21 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Karine. Bonjour Karine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, bon. Merci à vous de m'avoir invitée.
Mais je vous en prie Karine, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 47 ans, j'habite à Poissy dans les Yvelines.
D'accord.
Et j'ai été opérée il y a 7 ans par le docteur Chouillard à l'hôpital de Poissy.
D'accord. Alors,
Qui est un hôpital CSO. Centre oui. spécial obésité, voilà.
D'accord. Comme en fait le docteur Lelandais qui exerce en Haute-Normandie, un centre oui. CSO, centre spécialisé en obésité, pour ceux qui avaient raté le début de l'émission. Vous pesiez 197 kilos, hein, Karine.
Oui, tout à fait, Olivier. J'ai mis sur votre groupe, dans les sacs, j'étais à 197 kilos pour ouais. dire aux autres personnes qui souffrent d'obésité mm-hmm. qu'on peut s'en sortir.
D'accord. Qu'est-ce que ça voulait dire au quotidien? Comment on vit quand on pèse 197 kilos?
Olivier, j'ai envie de vous dire que on ne vit pas,
bien
on
sûr.
Survit. Mm-hmm. J'ai rencontré beaucoup de problèmes dans les transports, impossible à prendre, la grossophobie. J'en connais un rayon. Il y a plein de choses, oui. Mm-hmm.
Vous étiez ce qu'on...
Vraiment, moi, je remercie chaque jour mon chirurgien et toute l'équipe de l'hôpital de Poissy qui m'a prise en charge.
Mm-hmm. Oui, parce que cette équipe vous a prise en charge lors de l'opération, mais il ne faut pas oublier tout le travail qui vous a amené à faire cette opération, c'est-à-dire tout le soutien moral que cette équipe vous a apporté, hein.
Oui, oui, oui. Et vraiment, 10 jours avant mon opération, j'ai été hospitalisée. Et vraiment, ils se sont vraiment très bien occupés de moi.
Alors, vous étiez dans ce qu'on appelle une obésité morbide, très dangereuse pour votre santé. L'opération s'est imposée à vous. Donc, qu'avez-vous subi exactement comme opération?
J'ai une sleeve.
D'accord. Ce qui veut dire?
Donc, ils m'ont enlevé les 3/4 de l'estomac.
D'accord. Comment vous sentiez-vous dans votre corps avant cette opération et surtout après?
Alors, avant, ce qui est bizarre, c'est que je ne me rendais pas compte que j'étais à 197 kilos.
Ouais. C'est pour ça que je vous posais cette question qui pouvait paraître un peu bébête.
Non,
mais justement, c'est important que les auditeurs comprennent. Avant, vous ne réalisiez pas que vous faisiez 197 kilos?
Pas du tout. Pas ouais. du tout. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré le docteur Chouillard, mm-hmm. qu'il m'a pesé, j'ai cru que la balance ne fonctionnait pas.
Mm-hmm. D'où elle venait cette obésité?
J'ai grossi petit à petit mmh. et je pense que je ne me suis pas rendu compte du danger.
Mmh. Alors aujourd'hui, vous avez perdu 100 kilos. Comment est-ce que vous vous sentez donc, pardon, combien?
Plus de 100 kilos.
Plus de 100 kilos, beaucoup. Oui. Puisque oui. vous êtes à combien aujourd'hui?
Là, dans les 80.
Dans les 80? Ce qui est extraordinaire. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Parce que vous évoquiez avant, je ne me rendais pas compte, mais aujourd'hui quand même, à 80 kilos.
C'est une nouvelle vie pour moi. Je suis une personne très active sur Poissy.
Oui.
Et j'ai totalement une nouvelle vie. Mon opération, c'est une renaissance.
Oui.
Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, l'acte chirurgical... ce qu'a fait le docteur Chouillard, et pour moi, c'est vraiment une reconnaissance éternelle.
Alors,
parce qu'il a complètement changé ma vie.
Alors justement, cette opération, on peut dire qu'elle est totalement réussie avec le poids que vous nous annoncez aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes toujours suivi par cette équipe médicale aujourd'hui?
Je voudrais insister sur quelque chose. C'est-à-dire que l'opération n'est pas une baguette magique, c'est une béquille.
Oui.
Et que le suivi, c'est à vie.
Oui, le suivi est à vie.
Oui, le suivi est à vie. À oui. vie. C'est mm-hmm. pas on se fait opérer et après on maigrit. Non, le suivi est à vie.
Et alors ce suivi, c'est quoi ce suivi? Il faut, je suppose, faire attention à son alimentation. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Une diététicienne,
oui.
une psychologue ou une psychiatre si c'est nécessaire, et une fois par an, le chirurgien, une fois qu'on a dépassé les 2 ans d'opération. Je pense que c'est très, très important, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des échecs.
D'accord. Et cette opération, je me tourne vers Hélène Lelandais. Lorsqu'on écoute Karine, en fait, docteur, je voulais vous demander à partir de quel moment il faut envisager l'opération, parce qu'on parle de 197 kilos. C'est beaucoup, 197 kilos.
Oui, tout à fait. L'opération, les indications stricto sensu, c'est soit une obésité de grade 3, donc un IMC au-delà de 40, soit une obésité de grade 2 associée à des comorbidités, donc c'est-à-dire des complications de l'obésité, qu'on considère qu'elles pourront être directement améliorées par la perte de poids. Donc c'est par exemple l'hypertension, le diabète, etc. Il faut aussi, avant d'être opéré, on a beaucoup parlé du suivi, mais il y a aussi une préparation qui est très importante avant l'opération. Donc il faut avoir bénéficié d'un suivi médical pendant au moins 6 mois et en général 1 an. L'idée étant qu'effectivement, ce n'est pas une opération magique et que le succès de cette intervention, elle est très liée aux modifications d'habitudes de vie que vont mettre en place les patients.
Alors, donc, volonté.
Ce n'est pas forcément une question de volonté. Comme je vous disais tout à l'heure, alors effectivement, il faut avoir une alimentation qui soit équilibrée. Oui. D'autant plus qu'après la chirurgie, le risque, c'est aussi la dénutrition. Donc, il est important d'avoir un statut nutritionnel correct. Il est important d'avoir une activité physique correcte également, parce que via la chirurgie, on va diminuer de manière drastique les quantités alimentaires qui sont ingérées par les patients. Et le risque, c'est de perdre plus sur la masse maigre que sur la masse grasse. Donc, pour entretenir sa masse maigre, il faut faire de l'activité physique. Et puis, on parlait tout à l'heure des troubles du comportement alimentaire. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du tout une question de volonté. Mais c'est des choses qu'il faut aborder avec les patients avant l'opération. Parce que s'il y a des troubles du comportement alimentaire, et c'est extrêmement fréquent, c'est quasiment 60% de la population obèse, il faut les stabiliser avant d'opérer les patients, parce que ce sont des facteurs de risque d'échec. Donc, il n'y a pas que la volonté, mais il y a effectivement un accompagnement et il faut que le patient prenne vraiment part à cette prise en charge et à ce projet.
Docteur Lelandais, vous restez en ligne avec nous. Karine, vous restez en ligne aussi avec nous. Dans quelques instants, nous allons accueillir Fabienne. C'est une ancienne obèse et vous allez pouvoir échanger toutes les trois.
Et il y a le témoignage de Fanny sur Facebook, le groupe de l'émission. Fanny qui s'est fait opérer une sleeve. Il y a 1 an, j'ai perdu 35 kilos. Je suis fière de l'avoir fait. Maintenant, il faut continuer le sport et surtout contrôler ce que l'on mange. Mais quel bonheur!
Europe 1.
Vous souffrez d'obésité? Nous vous attendons au standard d'Europe 1. Venez témoigner au 3921.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous souffrez d'obésité? Comment lutter contre? Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour conclure cette émission, nous sommes toujours en ligne avec Karine et toujours avec le docteur Hélène Lelandais qui, je le rappelle, est spécialiste en obésité au CSO, dans un CSO de Haute-Normandie. Docteur, lors d'une émission que nous avions consacrée à la grossophobie, j'avais sûrement peut-être maladroitement fait allusion à éduquer jeunes, donc les enfants, sur leur manière de se nourrir. Est-ce que la prévention auprès des enfants est-elle suffisamment développée et est-ce que ça a un rapport avec tout ça?
Alors, les deux questions sont pertinentes. Je ne sais pas si vous avez été spécialement maladroit, parce qu'effectivement, l'éducation est importante, l'éducation nutritionnelle. D'ailleurs, il y a aussi une certaine transmission culturelle dans certaines familles où tout le monde est obèse, mais parce qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires qui se transmettent de mère en fille et de père en fils, d'ailleurs. Donc, effectivement, pouvoir apprendre aux enfants à manger correctement, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas suffisant, mais c'est essentiel. Après, vous avez raison de dire que ce n'est pas suffisamment développé. Ça commence dans certaines écoles, commence à y avoir des choses dédiées. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte. Après, je dis c'est essentiel mais pas suffisant, parce qu'il restera toujours cette pression de la société qui pousse vraiment les gens à commencer à faire des régimes. Et à partir du moment où on a mis le pied dans l'engrenage, c'est très difficile d'en sortir. C'est ce que disait votre première auditrice.
Karine. Alors, nous allons accueillir maintenant Fabienne au 3921. Bonjour Fabienne et soyez la bienvenue sur Europe 1.
Bonjour Olivier,
bonjour.
Merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie, vous avez 56 ans et vous êtes une ancienne obèse. Comme Karine, vous avez été opérée il y a 2 ans maintenant. Vous êtes passée de combien à combien ?
J'ai perdu actuellement 55 kilos en 2 ans.
D'accord. Vous faites cuire quelque chose à côté de vous ou pas ? Ou j'ai entendu un petit bruit ? Non ?
Non, ça va, ça va.
Ok.
J'ai trop perdu de poids.
D'accord. L'opération était devenue inévitable pour vous ?
C'était vraiment nécessaire.
Comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Maintenant, je revis. Et comme on a dit tout à l'heure, la chirurgie bariatrique n'est pas une baguette magique. Il faut vraiment être suivi, être accompagné, être aidé. C'est vraiment essentiel. Sinon, c'est certain, on va droit dans le mur si on n'est pas aidé, si on n'est pas accompagné.
C'était de toute façon donc des efforts au quotidien à fournir pour vous.
Oui, tout à fait. J'étais prédiabétique, j'avais du cholestérol, j'avais de l'hypertension, j'avais des problèmes articulaires. C'était vraiment... Et l'image dans le miroir était très pénible.
Comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Maintenant, c'est impeccable parce que je fais du sport pratiquement tous les jours.
Ouais.
J'ai créé une association de patients justement pour aider les personnes au niveau de l'obésité, en les accompagnant avant l'opération, après l'opération, pour justement bien leur faire comprendre que le suivi à vie est vraiment essentiel.
Alors, on va donner la parole pour la fin de cette émission au docteur Hélène Lelandais pour lui poser cette question. Quel est le meilleur moyen, docteur, de lutter contre l'obésité ? Est-ce que c'est l'opération ou est-ce que cela passe par autre chose ?
Expliquer la question que vous me posez. Alors, effectivement, l'opération pour un certain nombre de patients est une très bonne option. Après, moi, ce que je conseille à mes patients, et c'est d'ailleurs un des derniers paradigmes sur le plan alimentaire et de la perte de poids, c'est de se recentrer vers ces sensations physiologiques, c'est-à-dire de faire en fait l'inverse d'un régime. On peut manger de tout à condition de le manger correctement. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se réconfortent avec l'alimentation.
Ouais.
C'est un comportement alimentaire qui est normal quand il ne dépasse pas son but. Et maintenant, on propose aux patients effectivement de se réconforter avec l'alimentation, mais en mangeant d'une manière... ce qu'on appelle l'alimentation en pleine conscience, en fait, si vous voulez, en se concentrant sur ce qu'on mange et en y prenant vraiment du plaisir pour y trouver un réconfort. Parce que, par exemple, le problème des gens qui sont compulsifs, c'est qu'ils mangent très vite beaucoup de choses. Et finalement, cette vertu réconfortante de l'alimentation, ils ne la retrouvent pas dans ce comportement alimentaire. Alors qu'en mangeant en pleine conscience, ils vont pouvoir retrouver ce plaisir et sans frustration. L'idée, c'est vraiment que tout est autorisé. À condition de se recentrer donc, sur ses sensations de faim, de satiété, de manger selon ses besoins et pas selon ce qu'on a appris ou ce que la société essaie de vous faire penser.
Docteur, merci mille fois pour vos éclairages. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir apporté vos éclairages. Merci aussi à Fabienne, à Karine de nous avoir appelés. Merci à Wafa, à Tina pour leur témoignage. C'est la fin de cette émission. Si l'obésité est difficile à vivre, elle l'est encore plus à cause du regard des autres. Les facteurs de l'obésité sont multiples et ne se résument pas, on l'a dit, à trop manger, comme vient de le dire le docteur Lelandais. Cela peut être lié à un dérèglement hormonal, à des troubles du comportement alimentaire, à la précarité. Mais ce n'est pas une fatalité. Une prise en charge adaptée et des opérations sont possibles. Vous pouvez consulter, bien évidemment, dans les CSO, les centres spécialités obésité qui existent dans chaque région et qui sauront vous conseiller sur la meilleure manière de lutter contre cette obésité.
Et vous pouvez continuer de témoigner, de discuter sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et sur Instagram Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la crise d'ado. Tout un programme. Cette période délicate et difficile tant pour les adolescents que pour les parents. On peut même parler de guerre parfois. Alors, si votre enfant est en pleine crise d'adolescence, si vous vous souvenez avoir fait une crise d'adolescence, très compliqué. Je suis un cas de crise d'adolescence compliquée. Si vous avez un souvenir amer de votre crise d'ado, et puis si vous vivez quelque chose avec vos enfants de difficile en ce moment, eh bien n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'étais ravie de passer cette heure avec vous.
Également, c'était un plaisir.
Et puis on se retrouve demain, évidemment, à 15h. Je vous laisse maintenant avec l'excellent Carl Zéro sur Europe 1 et ses tontons flingueurs. Et il accueille aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor et l'abbé de la Morandais.
À demain et à tout de suite avec Carl Zéro sur Europe 1.